marche de l'histoire, du lundi au vendredi sur France Inter à 13h30.
Mesdames et messieurs, avancez s'il vous plaît, l'histoire va vous parler.
Chateaubriand voyageur, il fut l'un des premiers des grands reporters.
Chateaubriand, le voyage en Amérique.
Si une partie de ses amis du régiment même, où il est, régiment de Navarre, émigre du côté de l'Est, Coblenz, quoi, l'armée des princes, et lui, il va émigrer du côté de l'Ouest, c'est-à-dire le plus loin possible. J'émigre du monde, comme il dit un camarade, le chevalier de Pana.
J'émigre du monde, qu'est-ce que ça signifiait? Ça signifiait tout simplement qu'il voulait aller voir le nouveau monde, c'est-à-dire les États-Unis. Et c'est vrai qu'il avait derrière la tête l'idée de se rendre chez Washington. Attention, il y a diverses choses à examiner là-dessus. Il nous racontera qu'il avait l'intention, une intention géographique et exploratrice, de trouver ce que l'on appelait le passage du Nord-Ouest, c'est-à-dire de voir s'il était possible de rejoindre le Nord-Atlantique et le Nord-Pacifique sans tomber sur une barrière de glace. Je crois que c'était une blague. Et mon Dieu, vous savez, Chateaubriand est le spécialiste des contes et des blagues. Si je n'étais pas respectueux, je dirais que les Mémoires d'Outre-Tombe sont un festival de fariboles. Alors c'est pas vrai, comme il est parti avec rien. Et pour une expédition polaire, il aurait dû emporter du matériel qui n'emporte point. Qu'est-ce qu'il veut donc faire aux États-Unis?
C'est la question d'Henri Guillemin. Ben, la réponse, elle est chez le lecteur de Rousseau. Qu'est Chateaubriand? Il veut tenter de courir les bois, de s'ensauvager, de retrouver, loin des villes et même des chemins, l'état de nature. Le retour interviendra, faute d'argent, dès janvier 1792. Il est parti en 1791, fin mars. « Je reviens, dit-il, sans esquimaux, pas de passage du Nord-Ouest, mais avec deux sauvages d'une espèce inconnue, Chactas et Atala, deux Indiens de papier qui feront le succès du premier livre qui le rendra célèbre en 1801. » Ce parcours en Amérique, somme toute assez bref, irradiera ensuite l'œuvre entière. Les réminiscences d'outre-Atlantique surgissent un peu partout. Chateaubriand les met sans cesse en correspondance avec sa mémoire d'autres voyages. Avec les années, il ne sait plus très bien lui-même ce qui tient de son expérience de jeunesse, des notes qu'il a prises, de ses brouillons littéraires, de ses lectures. Et en 1827, le voilà qui insère dans ses œuvres complètes un texte intitulé « Voyage en Amérique » qui, paru quasi le dernier, est censé rendre compte au plus près de l'expérience première. Mais il se fait un malin plaisir d'y mêler au témoignage du jeune homme qu'il fut ses réflexions d'ancien ministre des Affaires étrangères. Quand paraît ce voyage en Amérique, ses cheveux blanchissent déjà et il médite sur le paysage et le voyage. Pendant le voyage, le reflet des images qui défilaient devant lui s'est inscrit dans sa pensée et en même temps il a laissé de sa vie dans les lieux où il est passé. Depuis, il vit encore des regards qui se sont portés sur lui.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun, sur France Inter.
Avec Sébastien Baudouin, bonjour.
Bonjour.
Qui n'a cessé de publier des articles sur Chateaubriand, qui participe au colloque de la ville de Saint-Malo, mi-septembre, sur Chateaubriand, 250 ans après sa naissance, et puis chez Garnier, votre thèse, mais adaptée, un livre sur la poétique du paysage de Chateaubriand. On ne va pas revenir sur les raisons du voyage en Amérique, mais insister peut-être sur le fait qu'il est l'objet de réminiscences, de correspondances, de rebonds sans cesse dans toutes les œuvres, pas seulement dans les œuvres de description naturaliste, botanique, ethnologique, non, non, dans les romans, dans le génie du christianisme.
Oui, effectivement, c'est ce que j'appelle, un néologisme, mais ce que j'appellerais plutôt la matière américaine, c'est-à-dire que Chateaubriand utilise le matériau de ses notes prises en Amérique, et puis après consignées en Angleterre, pour nourrir toutes ses œuvres, pratiquement toutes ses œuvres. Ça commence par l'essai sur les révolutions, à partir de petites notes, de petits chapitres, et puis ça essaime dans le génie du christianisme, Atala, René, bien entendu, les Natchez, et ça finit en 1827 par les Mémoires d'Outre-Tombe, avant le grand œuvre, le monument de papier, comme il l'appelle, les Mémoires d'Outre-Tombe, qui vont recueillir la matière américaine et lui donner une dimension plus épique dont on reparlera sans doute plus tard.
C'est jolie matière américaine. Alors, on connaissait la matière de Bretagne de Chateaubriand. Cadet de Bretagne, sans beaucoup d'espérance, surtout depuis que la monarchie est ébranlée, il s'en va donc de sa bonne ville de Saint-Malo fin mars 1791, le mois de l'enfance, va à la rencontre du nouveau moi. Il est né dans une bourrasque, hein, Saint-Malo.
Oui, voilà. Alors, selon sa propre mythologie autobiographique, on peut dire, il est né un jour de tempête. Alors, il s'est avéré que c'était vrai. Effectivement, ce jour-là, il y a eu une tempête. Et il y voit un signe, bien sûr, à la fois de distinction. Hein, c'est un petit peu comme les naissances à augure dans l'Antiquité qui distinguent les gens qui naissent... avec une distinction particulière, alors soit né coiffé, soit il y a un prodige qui se produit le jour même, et bien lui c'était une tempête. Voilà. Et il se dit, je suis voué au malheur, on m'a infligé la vie, avec cette très belle formule.
Et alors, quand il fait route vers l'Amérique, via les Açores, évidemment il essuie une tempête bien faible par rapport à celle qu'il connaîtra au retour. Mm-hmm. Il échappe toujours de peu, dit-il. Et, tel Ulysse, il se fait attacher un mât pour bien remplir les yeux de l'émeute, de la mer, et les oreilles aussi.
Ah, ça commence bien ! Vois le mât ! Tout le monde à l'avant ! Bordez grand phoque, petit phoque ! Avant !
Oui, capitaine!
Mettez-vous à l'abri! Et allumez la poêle pour sécher les hardes!
Je regrette pas d'être là!
Non! Tant mieux!
C'est la tempête du téléfilm Entre terre et mer de Ballet. Ça tombe bien parce que ça se passe entre Saint-Malo et Saint-Pierre et Miquelon. La beauté du paysage, ça tient au danger qu'il recèle aussi.
Exactement. Oui, oui. C'est une des particularités du sublime qui anime Chateaubriand, c'est-à-dire une sublime héritée d'Edmund Burke, qui est à la fois fondée sur une grande admiration et un grand effroi. Un péril et en même temps une exaltation. Et la tempête, Niagara, la nature sauvage américaine démesurée, fait que Chateaubriand se sent pris entre ce danger et cette ce risque de mort et ce surcroît de vie qui le pousse vers l'infini. Alors
mais à vrai dire, il n'y a de paysage qu'agissant. C'est pour ça que oui. La mer est le paysage numéro un.
Oui, effectivement. Alors la mer, c'est l'infini, comme le ciel. Hein, et c'est ce qu'il appelle le double azur dans les Mémoires d'Outre-Tombe. Effectivement, le paysage est agissant et agit sur Chateaubriand. C'est ce qui lui donne, sous sa plume... très, très lyrique, une dimension épique qui ont fait des paysages souvent en mouvement.
Alors le voici, l'ancre du Saint-Pierre, c'est le bateau sur lequel il est monté, perdu. Le voici qui arrive à l'archipel de Saint-Pierre et Miquelon, qui évidemment est dans la brume. Nous sommes au mois de juin. Il voit un paysage qui se dévoile. Paysage se dévoile chez Chateaubriand, répétez-vous.
Oui.
Il y a des ombres qui surgissent de la brume de temps en temps.
Il y a un double imaginaire. Il y a l'imaginaire théâtral, bien sûr. Et aussi, il ne faut pas l'oublier, je l'ai souligné dans un article à Cerisy, une dimension érotique. Il y a une érotique du paysage aussi chez Chateaubriand, parce que justement les brumes sont à la fois fantomatiques et en même temps exacerbent le désir d'infini, le désir de découverte.
Enfin, surtout quand sur la route du Cap à l'Aigle apparaît une jeune fille.
Et oui.
La jeune marinière. Alors quand on va à Saint-Pierre-et-Miquelon, j'ai eu la chance de le faire cet été, on peut regarder le médaillon qui célèbre la rencontre avec la jeune marinière qui s'était évaporée assez vite. On part vers le Colombier, c'est un rocher dont il parle, qui est couvert d'oiseaux, d'une réserve. Au pied, il y a une passe où on peut chasser toujours la baleine, enfin on pourrait chasser toujours la baleine. Et un chemin y mène, qu'il a donc emprunté, qui ressemble beaucoup au Mont d'Arrée. Et au bout de ce chemin, il y a l'Anse à Henri. Et figurez-vous qu'il y a peu d'années, on a découvert que c'était le seul site paléo-esquimau de France, donc vers 3000 avant notre ère. Premiers occupants temporaires. Il y avait une grève, une source d'eau, la possibilité de chasser, la possibilité de manger. Il a eu la prescience des Esquimaux. De la présence des Esquimaux. Alors on se moque de lui parce qu'il a vu il dit qu'il y a des ours polaires sur l'archipel. Non, mais il est allé au lieu magnétique.
Et oui, effectivement, il y a souvent ce genre de situation dans l'expérience et dans l'œuvre de Chateaubriand où il semble avoir pressenti à l'avance des éléments qui arriveraient plus tard. Alors c'est la dimension prophétique aussi de Chateaubriand qui est pour une part visionnaire. On l'a beaucoup moqué, le visionnaire, l'écrivain prophète qui se sent doué d'une forme de double vue. Et on a moqué cela comme une mise en scène, une rodomontade de l'ego. Mais il y a fondamentalement chez lui l'idée selon laquelle l'expérience est déjà une avancée, un moyen d'anticiper l'avenir. Et d'ailleurs, les mémoires d'outre-tombe, c'est cela, anticiper l'avenir.
La mémoire du futur.
Oui, exactement.
Ça sera le titre de l'émission de Mathieu Vidard, tout voilà. À l'heure. Sur le choix de l'Anse à Henri et du Colombier avec son ami Tulloch. Un bel adolescent, il se récite des vers d'Ossian.
Et oui, délocalisé.
Qu'est-ce que c'est Ossian?
Alors Ossian, c'est un barde qui en réalité est un barde fictif qui aurait existé, mais en réalité c'est une créature inventée par Macpherson et qui...
Un écossais du 18e.
Voilà, exactement. Et qui
et
a
cet Ossian succès... aurait vécu au 3e siècle.
Voilà, exactement.
Il était aveugle, bien sûr.
Oui, et oui, comme Homère. Et comme Milton aussi, un autre auteur qui a beaucoup nourri Chateaubriand.
Et qu'il traduira. Alors voici, à l'époque, Méhul sévissait, un opéra en un acte imité d'Ossian Utal.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Chateaubriand, 250e anniversaire de sa naissance. Notre invité, Sébastien Baudouin, qui a écrit une poétique du paysage chez Chateaubriand. Le voici qui arrive en Amérique. On ne va pas s'attarder sur Philadelphie, sur la rencontre sans doute réelle avec Washington. On pourrait insister sur les pages prémonitoires sur les États-Unis du voyage en Amérique, parce qu'il imagine les forces de sécession à l'œuvre dans la République qu'il admire.
Oui, effectivement.
Mémoire du futur.
Et oui, oui, oui. Il a, même avant la venue de Tocqueville, qui est un parent de Chateaubriand, il a cette vision de l'avenir des États-Unis. Alors c'est surtout dans la conclusion du voyage en Amérique où il envisage les destinées des États-Unis. Alors c'est assez saisissant de lire ça parce que effectivement ce qu'il a dit s'avère pour une part bien vrai.
On les croit unis, mais ce sont des sociétés qui se dédaignent et ne se voient pas entre elles. Oui, bon, mais il est parti pour le passage du Nord-Ouest. Si je m'étais entendu, je serais allé tout droit au pôle. Comme on va de Paris à Saint-Cloud ou à Pontoise. Mais enfin, heureusement, il écoute les conseils de raison qui lui sont donnés et choisit une autre direction.
Oui, voilà. Alors, il rencontre un certain Swift qui est, en réalité, qui fait du trafic de pelleterie, c'est-à-dire de peaux de castor ou de peaux d'animaux à fourrure avec les Indiens.
Que le père de Chateaubriand lui-même, armateur à Saint-Malo, oui. Il transportait des peaux de castor.
Effectivement, oui, tout à fait. Donc, il est en pays de connaissance, en quelque sorte, malgré tout. Et ce Swift lui dit, jeune homme, vous vous emballez quelque peu. Pour partir aussi loin dans le Grand Nord, il faudrait avoir une autre équipée, connaître davantage le terrain. Et il lui conseille plutôt d'arpenter déjà le terrain au-delà de la frontière, de s'acclimater aux peuples locaux et d'essayer déjà de voir s'il peut commencer à progresser dans le wilderness, c'est-à-dire l'espace sauvage.
Il s'habille comment ? Avec son guide, parce qu'il a un guide hollandais.
Oui, alors effectivement, alors il se déguise en trappeur, il prend les vêtements du trappeur en tant que tel. Alors il y a une sorte de théâtralisation qui est très fréquente chez Chateaubriand. Il refera la même chose en Orient. Il a besoin de changer de costume, et en même temps c'est très symbolique parce qu'il change de personnalité, il devient un autre moi, il sent sauvage. En quelque sorte.
Le paysage est un théâtre. Et alors, dans le paysage, l'on fasciné, on a entendu la mer, le ciel qui se dévoile parfois, mais aussi le fleuve.
Nous voilà non loin des rivages du Méchacébé, qui formait autrefois la barrière méridionale de la Nouvelle-France. Où sommes-nous ?
Chez les Onondagas.
Vous parlez leur langue ?
À peine 100 mots.
Hostile. Wow. Pas qu'il est. Je te vois chaud. A beau état. Pour hab. Avoir du wadet. Légué coussail.
Il est le grand sachem des Onondagas. En des dernières qui gardent encore des traditions des Iroquois.
Alors nous voilà dans le téléfilm de Pierre Aknin, avec Chateaubriand, rencontrant le vieux grand sachem. Oui, une tribu d'Iroquois, les implacables ennemis des Français pendant longtemps. Mais enfin, c'est pas l'état de nature encore, ce vieux sachem, parce qu'il est composite, non ?
Mais alors cet état de nature, Chateaubriand le cherchera pendant longtemps, il est vraiment déçu de tomber sur des sauvages qui ne sont pas sauvages ou qui pratiquent le commerce avec les hommes civilisés qui parlent anglais. Alors ça, en même temps ça lui permet de discuter avec eux. Donc en même temps voilà, c'est un moyen de d'établir un contact plus facile. Mais ce qu'il veut trouver, c'est vraiment des Indiens qui parlent indien et qui sont vraiment exempts de toute corruption de la culture. En réalité, c'est un rêve rousseauiste, une chimère.
Parce que c'est un grand lecteur de Rousseau.
Et oui, oui. Alors, c'est un père littéraire qu'il aura du mal à liquider, si on peut faire du freudisme. C'est-à-dire qu'il cherchera à l'exorciser à travers l'Amérique, mais en même temps, Rousseau le hante.
Alors, dans Le Voyage en Amérique, publication tardive, 1827, il y a un journal sans date. Il y aurait donc eu un moment de grâce où il n'y aurait plus eu de calendrier. Il entre dans la forêt. Liberté primitive, je te retrouve enfin. Je passe comme cet oiseau qui vole devant moi, qui se dirige au hasard et n'est embarrassé que du choix des ombrages. Me voilà tel que le Tout-Puissant m'a créé, souverain de la nature, porté triomphant sur les eaux, tandis que les habitants des fleuves accompagnent ma course, que les peuples de l'air me chantent leurs hymnes, que les bêtes de la terre me saluent, que les forêts courbent leurs cimes sur mon passage. Vous y teniez au journal sans date.
Ah oui, c'est magnifique. C'est le passage le plus beau, je pense, du voyage en Amérique, parce que c'est le moment où il se dépouille de sa culture, et où il est pleinement en contact avec la nature. Il le dit, hein, l'idée de l'infini se présente à moi. C'est là où il est en contact avec l'immatérialité de l'existence, qui se rend compte pleinement qu'il a un corps, mais surtout une âme, et que cette nature parle à son âme. C'est le silence qui lui permet de ressentir ce qu'il n'a jamais ressenti avant, c'est-à-dire l'omniprésence de la nature.
Et la nuit américaine, c'est très important, la nuit américaine. Il y voit plus de silence qu'il n'y en a peut-être. Et une nuit, chez les sauvages. On se souvient d'une rencontre furtive avec une jeune marinière à Saint-Pierre. Mais là, il y a deux filles peintes, deux odalisques qui le serrent de très près.
Oui, alors ces rencontres fugaces avec des amours impossibles, des figures féminines, sont toutes teintées des réminiscences de la sylphide. Ce sont des créatures qui, à la fois, sont des tentations et, en même temps, ne restent pas.
Mais là, ça a failli se faire, parce que la jeune marinière, elle est partie sur une embarcation guidée par la fortune. Et là, les deux filles peintes, à peu de choses près, non ? S'il y avait eu un coup de sifflet.
Initialement, ils pensent que ce sont des jeunes indiennes communes. Et après, ils se rendent compte quand même que ce sont des prostituées. prostituée. Et on les lui arrache et son rêve se dissipe. Et c'est à l'image de son rêve américain, en réalité, qui se dissipe.
Mais Malesherbes, l'un de ses parents qui lui avait conseillé de chercher le passage du Nord-Ouest, lui avait dit aussi, tu devrais faire, vous devriez faire, François René, de la botanique, être un peu plus naturaliste. Dans le voyage en Amérique, il y a comme des fiches d'histoire naturelle qui sont distribuées, les castors dont on a déjà parlé, les bisons, c'est drôle ça.
Alors ça s'explique. Philippe-Antoine l'a très bien analysé d'ailleurs. En réalité, c'est une constante. Dans les récits de voyage, notamment du XVIIIe siècle, il y avait l'itinéraire, donc le parcours. Et puis après, il y avait toujours une dimension encyclopédique où on donnait du savoir, où on classait et on se prenait pour Buffon, Linné. On donnait en quelque sorte des fiches encyclopédiques qui traitaient de la nature. Et donc Chateaubriand, alors là, il pille beaucoup Bartram, Beltrami, Carver, des voyageurs américains naturalistes, parce que lui n'est pas naturaliste. Il y a un effet de naturaliste chez Chateaubriand qui est très bluffant, notamment dans l'usage du latin, hein, passer nivalis, ou autant de termes qui désignent les oiseaux.
Et il n'hésite pas à mettre ensemble des animaux qui ne peuvent pas cohabiter.
Exactement.
Ça ne le gêne aucunement, ça.
Par contre, ça a gêné beaucoup la critique, qui s'est dit, bon, il affabule, il a tout inventé, il n'est pas allé en Amérique.
Mais je comprends votre système d'annexes, là. C'est pour ça que dans votre livre, Poétique du paysage de Chateaubriand, exactement, classique Garnier, je me demandais pourquoi il y avait autant d'annexes que vous preniez pour Chateaubriand quand vous l'écriviez.
Je ne me garderais bien d'être atteint de ce syndrome qui touche pas mal de personnes qui ont fait une thèse sur un auteur. Non, en réalité, c'est
pour... Puis celui-là est enchanteur, quand même.
Ah oui, effectivement, c'est comme le disait Sainte-Beuve. Mais cette anthologie vise à donner au lecteur une possibilité de voir, d'embrasser tous les paysages d'un coup.
Alors nous, on va faire une conclusion en parlant de la mort de Chateaubriand, parce que c'est l'anniversaire 1768, c'est un compte rond de sa naissance, mais il est mort en 1848, et voici ce qu'au moment de sa mort, ou plutôt de ses obsèques, déclarait dans Choses vues Victor Hugo. Victor Hugo qui voulait, on le sait, être Chateaubriand ou rien.
Les obsèques de M. de Chateaubriand se firent le 8 juillet 1848. Je dis les obsèques et non l'enterrement, car M. de Chateaubriand avait depuis longtemps son tombeau bâti d'avance à Saint-Malo sur un rocher au milieu de la mer. Il y eut peu de foule et une émotion médiocre aux obsèques de M. de Chateaubriand. J'eusse voulu pour M. de Chateaubriand des funérailles royales, Notre-Dame, le manteau de père, l'habit de l'Institut, l'épée du gentilhomme émigré, le collier de l'ordre, la toison d'or, tous les corps présents, la moitié de la garnison sur pied, les tambours drapés, le canon de 55 minutes, ou le corbillard du pauvre dans une église de campagne. Le cadavre ne pouvait partir immédiatement pour Saint-Malo, car le flot ne lui permettait de prendre possession de son tombeau que le 18 juillet. Après la cérémonie religieuse et la cérémonie académique, on descendit le mort illustre dans le caveau de l'église, j'y entrai. Le cercueil était encore couvert du drap de velours noir, deux cierges brûlaient de chaque côté. J'y rêvais quelques minutes, puis je sortis, et la porte se referma.
Saint-Malo, le Grand B, matière américaine, matière bretonne, et Victor Hugo qui note qu'il n'est jamais à sa place. D'ailleurs, Saint-Malo, il y est revenu au début de 1792, retour d'Amérique, et puis il semble qu'il n'y soit jamais revenu ultérieurement, mais il a voulu y être enterré. Mais c'était pas la place qu'il tenait habituellement, en fait. Jamais à sa place, cet homme.
Ah oui. C'est un grand voyageur, hein. On l'oublie assez souvent. Mais
une plante même... voyageuse.
Oui, qui migre, comme les plantes décrites dans le génie du christianisme.
Mais qui se retourne derrière et dit « Les châteaux que j'ai construits n'ont pas tenu plus que les châteaux de sable de mon enfance sans la grève, ou sur le sillon. »
Oui, et il a conscience de la précarité de ses œuvres. C'est d'ailleurs la raison d'être des Mémoires d'Outre-Tombe. Il a voulu en faire un monument de papier, comme je l'avais dit, et enfin, c'est la formule de Chateaubriand. Et le but, c'était véritablement d'essayer de vaincre le temps, ce qui est impossible, évidemment, mais il a quand même réussi, puisqu'on en parle aujourd'hui.
Le désenchanté est toujours enchanteur. Votre livre, donc, chez Garnier. Je signale le site tenu par une auditrice fidèle, l'Histoire en citation, qui est consacrée cette semaine à l'anniversaire de Chateaubriand, et puis toutes sortes de manifestations mi-septembre à Saint-Malo, et un grand colloque, un autre que celui de Saint-Malo, à Rome en octobre. J'ai déjà dit, Mathieu Bidard, le titre de votre émission, très chateaubriandesque.
C'est étrange, hein, c'est un drôle de truc quand même, ça.
C'est une sorte de prescience que vous aviez.
Oui, la mémoire du futur.
La mémoire du futur.
La mémoire prospective, avec quelqu'un que vous connaissez bien, Bernard Stiegler et Francis Eustache.
Mathieu Bidard, merci. Clément Vuillet à la technique, Ilinka Negulesco, la préparation, et Audrey Ripouille, la réalisation.